Bonjour, bienvenue dans le podcast des chèvres dans le Larzac, le podcast qui parle de reconversion professionnelle au féminin. Pourquoi ont-elles changé de vie? Sont-elles plus heureuses maintenant? Par quelles étapes sont-elles passées avant d'oser se lancer? Pour le savoir, nous donnons la parole chaque mois à une femme qui s'est reconvertie ou a créé son entreprise. Bref, qui est allée vérifier si l'herbe était bien plus verte ailleurs.
Si vous aimez les récits de changement de vie, si vous cherchez de l'inspiration ou du courage pour vous lancer, allez faire un tour sur notre compte Instagram ou sur notre blog deschèvresdanslelarzac.com. Et pour retrouver les autres épisodes du podcast, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute habituelle ou sur CDI Podcast. En studio avec nous aujourd'hui, Christelle Simon du magazine Repondir, qui nous donnera quelques astuces anti-stress.
Bonjour.
Bonjour Christelle. Quant à nous, nous sommes Caroline et Florence. Caroline, ex-journaliste reconvertie dans la com et cofondatrice du site sur la conso responsable lecaba.fr.
Et moi, Florence Martin-Pelmier, ex-journaliste aussi reconvertie aussi dans les relations médias, puis dans la création de contenu éditorial en freelance. Donc après cette longue introduction, nous arrivons à l'essentiel, notre invitée du jour, Stella Aumont. Bonjour Stella.
Bonjour Caroline, bonjour Florence.
Bonjour Stella. Tu es toi aussi une reconvertie en série, c'est le plateau des reconvertis ici. D'abord juriste, tu as ensuite lancé une première entreprise, puis une deuxième avant d'ajouter une autre corde à ton arc avec l'immobilier. Si tu devais décrire ton activité professionnelle du moment en une phrase, que nous dirais-tu ?
Alors, je vous dirais que je suis facilitatrice parce qu'en fait, dans toutes mes activités, le point commun de toutes mes activités, c'est ça, c'est faciliter la vie des gens au travers justement de l'intermédiation que je fais entre vendeurs et acheteurs dans le cadre immobilier, mais également au sein de ma boutique, le pop-up de Stella, où je fais matcher en fait des consommateurs avec des créateurs.
Super, alors on va revenir en détail sur ces différentes facettes de ton activité, mais j'aimerais bien que tu nous parles d'abord de ta première expérience entrepreneuriale qui date de 2013, tu m'en avais parlé un petit peu, qui n'avait pas fonctionné en fait comme tu le voulais. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, bien sûr. Alors j'ai eu l'opportunité, alors que j'étais salariée, donc juriste, de créer une structure avec un architecte à l'époque. Et l'idée, en fait, c'était de travailler sur la surélévation sur Paris, en sachant qu'il y avait eu tout un contexte réglementaire qui permettait, en fait, de surélever. Et du coup, on s'était dit, ah bah tiens, c'est une idée business super. Et on a essayé, effectivement, de développer. On a réussi à avoir beaucoup, beaucoup de prospects. On a fait pas mal d'études. De surélévation, d'études techniques, mais à chaque fois ça bloquait en fait quand on arrivait avec notre dossier qu'on présentait devant les copropriétaires. Et parce qu'en fait il fallait une autorisation de copropriété. On parle de surélévation d'immeubles en copropriété, hein, pas de surélévation de maisons individuelles où là il n'y a pas ce blocage des copropriétaires. Et du coup, on s'est rendu compte que c'était très dur d'obtenir ce sésame. Et au final, c'est vrai qu'au bout de 3 ans d'activité, bah, j'ai fini par bifurquer et quitter la structure et revendre mes parts donc à mon associé.
Et du coup, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Parce que c'est pas facile, j'imagine, d'abandonner 3 ans de sa vie et une activité dans laquelle on a cru.
Ah ben non, c'est hyper frustrant, effectivement. Mais après, j'essaye toujours de voir le verre à moitié rempli. J'ai appris beaucoup sur mes capacités, mes compétences. C'était pour moi la première fois que je me lançais en tant qu'entrepreneur. Je savais pas que j'étais capable de faire autant de choses au point de vue communication, au point de vue marketing, au point de vue réseautage. J'ai créé pas mal de choses au travers donc de cette première structure qui m'ont du coup donné des ailes pour créer ma seconde structure. Donc pour moi, ça a été aussi un apprentissage. Effectivement, l'entrepreneuriat est fait d'échecs, hein, il faut le dire. Hein. Les entrepreneurs à succès ont tous échoué aussi. Et il faut beaucoup de persévérance, et beaucoup d'endurance et d'humilité quand on est entrepreneur, parce que c'est vraiment un chemin semé d'embûches.
Alors ça, c'est vraiment génial de dire ça, parce qu'effectivement, je pense qu'on n'a pas tous cet état d'esprit-là. Et donc, du coup, tu as su rebondir et tu as lancé une deuxième structure dans le secteur de la déco,
oui.
Donc qui n'avait pas grand-chose à voir. Comment t'expliques cette bascule ?
Alors, en fait, moi, j'ai toujours été attirée par la maison. La surélévation touche aussi l'agrandissement d'une maison. La décoration touche également la maison et l'immobilier dans lequel je suis actuellement aussi. Donc en réalité, et ce qui est assez drôle aussi, c'est quand j'étais juriste, j'ai travaillé aussi dans le secteur de la maison. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour des marques de literie, j'ai travaillé pour des marques de chauffage. Donc c'était toujours le confort à la maison. Donc c'est un peu mon fil conducteur. Et donc du coup, moi, quand j'ai quitté cette première structure, j'avais envie toujours de continuer dans l'entrepreneuriat. Et j'étais à ce moment-là enceinte. Et je commençais à regarder donc, comment décorer la chambre de ma fille. Et j'ai été surprise de voir que finalement, l'offre grand public qui m'était présentée ne correspondait pas à ce que je voulais vraiment. Donc du coup, je me suis mise à chercher un petit peu et j'ai découvert via Instagram plein de petites marques hyper sympas. J'ai été à Maison et Objets et j'ai du coup aussi découvert des marques nordiques qui étaient hyper canons. Et je me suis dit, ah ben, ça serait sympa de pouvoir proposer ça, non pas sur Paris, parce que pour moi, l'offre était déjà assez saturée sur Paris, mais en banlieue. En plus, j'avais autour de moi beaucoup de familles qui n'avaient plus le temps d'aller faire du shopping sur Paris. Et je me suis dit, ah ben, tiens, pourquoi pas m'installer sur Bécon, dans le 92, un quartier justement en plein rajeunissement, avec beaucoup de Parisiens qui s'y installent. Et du coup, je trouvais que c'était en adéquation aussi avec, le profil en fait, du quartier. Et comme j'étais un petit peu aussi, alors je suis entrepreneur, mais j'aime pas prendre d'énormes risques non plus, donc j'essaye de mesurer. J'ai négocié avec mon bailleur à l'époque un bail précaire d'un an, en lui disant, écoutez, moi je veux pas m'engager sur un bail commercial de 9 ans, donc est-ce que vous acceptez de me laisser le bail, le local, pour un an, que je teste mon activité. C'était un petit local qui faisait 15 mètres carrés, qui était un petit peu excentré, mais dans une rue où il y avait une locomotive qui est Monoprix. Du coup, je partais de zéro, donc j'ai pas fait de rachat de fonds de commerce, donc j'ai pas fait de rachat de clientèle, du coup, donc je partais vraiment de zéro. Et du coup, donc le monsieur a été séduit donc par, je pense, mon audace. Ouais, le projet et aussi mon audace de lui dire bon ben laissez-moi ma chance. Et du coup, c'était un entrepreneur aussi, il était expert comptable. Et il s'est rappelé, lui, de ses débuts. Il m'a dit, bon, bah, d'accord, j'accepte, on signe pour un an. Donc, j'ai signé pour un an. Finalement, ça s'est bien passé. Et du coup, on a basculé dans un bail commercial. Et moi, ça m'a permis de mettre mon pied à l'étrier, parce qu'il a fallu vraiment tout faire connaître le pop-up de Stella. Essayer de créer une communauté autour de ma nouvelle marque. Ça n'a pas été évident tout le temps, mais au final, j'ai quand même réussi à fédérer une communauté. Et j'ai eu l'opportunité à un moment donné de revendre mon droit au bail à un commerçant du quartier. Et quand j'ai revendu, je me suis dit, c'est terminé la boutique, parce que c'est vrai que c'est très chronophage, mine de rien, on est toujours sur place. Et au final, j'ai eu l'opportunité de reprendre un autre local grâce à la mairie de Bois-Colombes. Et c'était un local précaire en plus, donc c'était l'idéal parce qu'en fait, je suis là pour une durée indéterminée et je peux partir quand je veux. Donc, on n'a pas ces contraintes liées au bail commercial. Donc, et en plus, un local qui était trois fois plus grand que celui que j'avais pour un prix moindre. Donc, du coup, j'ai mis les choses en balance. J'ai eu la chance de pouvoir être soutenue aussi et accompagnée par Emma, avec qui je tiens la boutique actuellement.
Oui, vous êtes deux, c'est ça, maintenant,
c'est ça.
Vous alternez sur place.
Ouais.
Ce qui est peut-être moins lourd en termes de vie de famille aussi.
Oui, et puis ce qui me permet aussi d'avoir cette autre activité. Parce que sinon, je n'aurais pas pu me dédoubler, en fait.
Donc, alors, pourquoi est-ce que tu as lancé justement une autre activité ?
Alors, moi, l'immobilier, c'est quelque chose qui m'a toujours titillée. Quand j'ai travaillé dans la surélévation, j'ai eu affaire à des professionnels de l'immobilier. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et puis, là, il est arrivé un moment où avoir un commerce de quartier, c'est vrai que ça fait rêver beaucoup de monde, mais c'est vrai que c'est difficile en termes de rentabilité et de chiffre d'affaires, qui est quand même assez fluctuant. En plus, là, avec l'année 2009 qu'on a connue, du coup, l'instabilité, elle est beaucoup plus grande avec les fermetures administratives, etc. Le fait aussi d'avoir un commerce, c'est beaucoup de trésorerie hein, qu'il faut dégager à chaque fois. L'achat-revente, c'est pas évident. Ce qui, moi, m'a poussée à aller sur l'immobilier, c'est qu'on est sur une activité de service. Et qui dit activité de service, dit moins de trésorerie et du coup d'immobilisation en termes de d'argent, de fonds, etc. Donc c'est aussi pour des raisons financières hein, que j'ai décidé effectivement de ne pas mettre mes œufs dans le même panier et de me diversifier et d'aller sur une activité que j'aime, qui me passionne.
Et du coup aujourd'hui concrètement, comment est-ce que tu te partages entre ces deux activités et est-ce que tu arrives à faire des ponts entre les deux ?
Alors c'est une bonne question parce que c'est vrai que ça n'a pas été évident. Parce que justement en France, on a tendance à beaucoup vous mettre dans une case. Et du coup, moi, comme j'ai beaucoup travaillé mon personal branding, on m'a beaucoup mis dans la case le pop-up de Stella. Donc au départ, quand j'ai commencé l'immobilier, quand je parlais immobilier, on me parlait boutique. Donc du coup, je me suis mise à réfléchir, notamment sur la période du confinement, comment faire ce pont entre mes deux activités. Et donc là, je commence à le faire, c'est-à-dire que j'ai un marketing que je mets toujours en place, hein. C'est-à-dire que j'envoie des newsletters à mes clientes régulièrement. Dans mes newsletters, je parle de ma double activité. Je leur dis également que je peux les aider sur la partie... J'ai rajouté en fait un arc à la boutique, c'est-à-dire que je fais du home staging aussi. Ce qui me permet de faire le pont avec l'activité immobilière. Donc j'essaye à chaque fois effectivement de me réinventer comme ça. Et finalement, ça commence à fonctionner. Alors c'est un travail de longue haleine hein, parce que c'est difficile, je pense, dans la mentalité un peu française, d'avoir un profil comme le mien, très hétéroclite, hein, qui paraît très hétéroclite, parce qu'en réalité, pour moi, je ne suis pas hétéroclite, en fait.
Oui, parce que c'est ce que tu viens de nous dire. Finalement, tout ça, il y a le fil rouge, en tout cas, de la maison.
Complètement.
Qui fait que la passerelle est pour toi évidente.
Complètement. Elle est évidente. Alors, il y a la maison, il y a l'humain aussi, parce que dans toutes mes activités, moi, j'ai essayé, par exemple, de lancer le pop-up de Stella en ligne. Ah bah, j'ai été vite frustrée, j'ai arrêté. Pour moi, c'était... j'étais préparatrice de commandes, c'était vraiment pas top. J'avais pas ce contact humain et du coup, j'ai laissé tomber, c'était pas mon truc. Donc il y a effectivement ce fil conducteur qui est la relation humaine, qui est effectivement le foyer, hein, le confort à la maison. Et pour moi, c'est effectivement important de pouvoir mettre ça en avant autant dans mon activité, le pop-up de Stella, que dans l'activité immobilière.
Alors, et tu as une autre.
Mais on a toutes les deux tout à fait hâte que tu nous parles de ta troisième activité, parce que tu ne fais pas que l'immobilier et le pop-up de Stella.
Et qui reprend beaucoup d'humains aussi, d'ailleurs.
Exactement, et qui fait la passerelle entre tout ça. C'est les mompreneurs du 92 que nous fréquentons assidûment avec Florence. Oui. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs de quoi il s'agit?
Oui, alors là, pour le coup, c'est une activité totalement bénévole. J'étais arrivée à un moment où j'avais besoin de partager avec d'autres entrepreneurs et je cherchais en fait à rejoindre un réseau local et pareil, toujours dans la même dynamique, j'avais pas envie de venir sur Paris pour trouver un réseau d'entrepreneurs au féminin. Et j'ai cherché sur Facebook, j'ai pas trouvé de réseau local. Sur le 92 et notamment autour de chez moi, donc autour de Bois-Colombes, Courbevoie, etc. Donc un jour, j'ai décidé de créer ce réseau. J'étais assise sur mon canapé, c'était en janvier 2018. Et du coup, j'ai créé ce réseau. J'ai invité mes premières copines entrepreneurs à le rejoindre. Et après, de fil en aiguille, d'autres entrepreneurs se sont greffés.
Oui, parce que là, on est à combien d'inscrites?
Alors, dans le groupe Facebook, c'est un groupe Facebook privé, il y a un peu moins de 1000 entrepreneurs, mompreneurs. Après, c'est vrai que c'est du déclaratif, hein, donc il n'y a pas réellement de vérification de ma part. Hein. Il y a un questionnaire d'adhésion et les personnes donc doivent dire effectivement si elles ont une activité sur le 92 ou à Paris, ou en tout cas si elles sont domiciliées dans le 92 et si elles sont également mamans. Donc du coup, c'est du déclaratif. Mais quand même, ça m'a permis de fédérer effectivement un certain nombre de mamans entrepreneurs. Et quand je parlais de ma casquette de facilitatrice, c'est aussi ça, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ce réseau, il y a du business qui s'est fait entre mamans entrepreneurs locales et qui continue à se faire. Et même moi, quand j'ai des demandes, parce que je reçois beaucoup de demandes en message privé, de questions, etc., ben, je mets en relation. Donc on me demande, est-ce que tu connais pas un community manager ou quelqu'un qui pourrait m'aider à faire ci? Ah bah tiens, je pense à un tel, et puis je donne les coordonnées de telle personne. Donc voilà, je suis vraiment facilitatrice. J'essaye à chaque fois de jouer les intermédiaires et de mettre en relation les personnes.
On va peut-être passer au questionnaire spécial bergerie. Du coup, en une phrase, est-ce que tu as trouvé ton Larzac?
Oui, je l'ai trouvé. C'est la créativité, je pense. Le fait de pouvoir sauter de projet en projet, moi j'adore ça et c'est un petit peu mon leitmotiv.
Qu'est-ce qui te rend chèvre aujourd'hui?
Alors, ce qui me rend chèvre parfois, c'est les personnes qui en fait ne sont pas dans un processus de je donne pour recevoir. Et qui du coup viennent uniquement pour prendre.
Prennent.
Et ça, c'est quelque chose qui me pose problème et qui m'agace.
Et est-ce qu'aujourd'hui, au final, l'herbe est plus verte dans ta vie aujourd'hui que dans celle d'avant?
Ah, je dirais oui, hein, définitivement. Je pense pas que je pourrais retourner dans un salariat classique. Je m'ennuierais en fait, je pense. Donc oui. L'herbe est plus verte aujourd'hui parce que justement j'ai cette possibilité de faire différentes choses et d'être à la fois comptable, community manager, conseillère en immobilier, vendeuse.
Acheteuse, oui, c'est une vie complète en tout cas, c'est le sentiment que tu donnes et c'est super positif comme message. Merci beaucoup Stella. Je voudrais maintenant qu'on donne la parole à Christelle Simon pour sa chronique. Aujourd'hui, Christelle nous parle d'un exercice anti-stress, parce que du stress, il peut y en avoir. Toi, tu te ferais bien d'écouter, parce que quand même avec tes trois vies, tu dois en avoir de temps en temps. Donc, quelques astuces avec la respiration, Christelle.
Oui, alors la respiration est en général une action que nous ne contrôlons pas. Non, pas besoin de réfléchir pour respirer, ça fonctionne tout seul. Mais nous pouvons aussi décider de prendre son contrôle pendant un temps et de la maîtriser et faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque ? C'est un concept issu des recherches médicales en neurosciences. C'est 5 minutes de respiration rythmée pour réguler le système nerveux autonome qui aide à réduire l'intensité des effets du stress sur notre organisme et à apaiser nos émotions, rien que ça. Alors, comment je pratique la cohérence cardiaque ? Alors, le principe, c'est 6 respirations par minute, sachant qu'habituellement, on en fait 12 à 15. Et pour chaque respiration, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. 6 respirations par minute, c'est une de nos constantes physiologiques qui permet d'atteindre un état d'équilibre, de cohérence cardiaque. Pour éviter de compter les secondes ou de guetter son minuteur, on peut utiliser une appli. Moi, ma préférée, c'est RespireLax. Elle est gratuite. Alors, on peut fermer les yeux et juste se laisser guider par le son pour respirer. 365, voilà le chiffre qu'il faut retenir pour la cohérence cardiaque. 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes.
Voilà une belle résolution pour cette nouvelle année. Merci Christelle, on va tous sur Respire Relax et on respire en cadence. Merci Christelle, merci Stella, un grand merci, pour avoir répondu à toutes nos questions. Et si vous habitez près de Bois-Colombes, surtout passez au pop-up de Stella.
Oui, tout à fait.
On mettra toutes les infos sur le blog des chefs dans le larzac.com.
Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. On espère que l'histoire de Stella vous a inspiré. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller liker sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc. Et bien sûr, CDI Podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, nous sommes toujours ravis de vous retrouver et de discuter avec vous sur Facebook, sur Instagram, des chèvres dans le Larzac. À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.